La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour et bienvenue dans la 20e émission, 20 émissions déjà de la Semaine de l'Art, c'est presque un anniversaire. Et pour cette 20e émission, nous recevons Rare Lawton, qui est le directeur de la Fondation Custodia, une fondation bien connue à Paris, dont nous parlerons dans un instant, et qui a un rôle fondamental pour l'histoire de l'art à Paris et pour le patrimoine parisien. La chronique. L'incendie qui a frappé le 23 mai la Glasgow School of Art de Rennie McIntosh pose une fois de plus la question de la protection des monuments historiques contre ce type de sinistre. Si l'on en croit ce qu'en disent les pompiers, relayés par la presse britannique, les dégâts sont apparemment moindres qu'on ne pouvait le craindre. 90% du bâtiment n'aurait pas été touché, et, à l'intérieur, 70% auraient été préservés. Cependant, il semble que la bibliothèque ait été en grande partie détruite et que beaucoup du mobilier de McIntosh ait disparu. Il est pour nous assez difficile de parler de ce type de drame, car à moins de pouvoir nous rendre sur place pour enquêter, comme nous l'avions fait pour l'hôtel Lambert, nous sommes condamnés, comme d'ailleurs la plupart des autres médias, à relayer des informations peu fiables, forcément partielles et tronquées, car il est impossible de faire un bilan avant que le sinistre ne soit terminé et qu'un inventaire ait pu être fait. C'est pour cette raison que nous n'avons pas beaucoup écrit sur ce sujet. Inutile de spéculer, notre but est d'informer. Rappelons à ce propos que le matin de l'incendie de l'hôtel Lambert, on pouvait lire dans les plus grands journaux que tout avait été détruit, ce qui s'est heureusement révélé faux. Mais je le disais en introduction de ce billet, il faut se poser de manière plus générale des questions sur la prévention des incendies dans les monuments historiques, qu'ils soient privés ou publics. Pour ce qui concerne l'hôtel Lambert, comme pour la Bibliothèque nationale, l'été dernier, nous avons pu démontrer que celle-ci était bien défaillante. On ne doit qu'à un concours de circonstances extraordinaires l'absence de dégâts rue de Richelieu, un voisin de la BNF ayant donné l'alerte rapidement, ce qui a permis d'éviter le pire. La prévention est particulièrement nécessaire en cas de travaux qui augmentent fortement le risque, mais elle doit aussi être permanente. Il y a quelques semaines, par exemple, on est passé bien près d'un drame au château de Versailles, dans l'aile des ministres, où un début d'incendie a eu lieu dans la cuisine d'un appartement de fonction. Les pompiers présents en permanence sur le lieu, comme ils le sont au Louvre, ont pu le contenir très rapidement. Le château n'aime bien sûr pas communiquer sur cet incident, mais ceux-ci ne sont pas rares. Au moment où l'installation de détecteurs de fumée va être rendue obligatoire chez les particuliers, il faudrait pour le moins qu'elle soit fortement renforcée systématiquement dans les monuments historiques. Nous commençons actuellement une enquête sur ce point, il est probable qu'il durera un certain temps. Mais nous sommes déjà en mesure de révéler que ce n'est pas le cas, même dans les monuments insignes au cœur de Paris. Un incendie dont l'effet désastreux se combine avec celui de l'eau qui sert pour l'éteindre est une menace permanente pour le patrimoine historique. Il est dommage que ce risque soit pris parfois avec une telle désinvolture par les personnes qui sont en charge de le conserver. Rare Lawton, je me tourne vers vous, j'espère que la Fondation Custodia est bien protégée contre l'incendie.
Oui, oui, oui. Et où ce n'est pas tout en ordre, on est en train de le revoir, parce qu'à cause de tous ces incidents, on se rend compte de la vulnérabilité, hein, c'est vraiment, oui.
Bon, ben j'en doutais pas, parce que je veux dire que vous faites à peu près tout vraiment très bien. Ce n'est pas du tout une figure de style, mais c'est vrai que j'ai tenu à vous inviter, je vous avais déjà interviewé pour la Tribune de l'Art. Vous étiez venu dans une émission télévisé entre guillemets de la Tribune de l'Art, ce type d'émission d'ailleurs que je vous le disais il y a un instant, nous continuerons, hein, je le dis aux auditeurs, nous n'avons pas renoncé à faire également des émissions télévisées, mais pour ça nous sommes à la recherche d'un financement que nous avons normalement trouvé, mais cela devrait prendre quelques semaines ou quelques mois avant que nous relancions ces émissions. Rare Lawton, donc vous êtes néerlandais ?
Oui, je suis néerlandais, né dans le sud des Pays-Bas, et les dernières 20 ans aux Pays-Bas, jusqu'à 2010, j'étais le chef du cabinet de dessins et des estampes du Rijksmuseum, le Rijksprentenkabinet. Et en 2009, il y avait une annonce dans les journaux, dans Le Monde, dans le International Herald Tribune et dans le grand périodique néerlandais, qu'on cherchait un directeur pour la Fondation Custodia. Et je me demandais peut-être une fois encore un changement de décor. Et j'avais 53 ans à ce moment-là et j'ai fait une autre étape de ma vie. C'était dur, l'échelle est complètement différente. au Rijksmuseum, il y avait environ 800 000 œuvres sur papier. C'est gigantesque. C'est vraiment une collection de référence. Et ici, à Paris, c'est la collection établie par Fritz Lucht. C'est un goût particulier, un goût très spécial. Et j'étais toujours impressionné par l'héritage de Fritz Lucht. Et j'avais énormément respecté mes prédécesseurs, Carlos van Hasselt et Maya van Bergen. Et je me disais, peut-être ça est un lieu où j'aime bien travailler. Et maintenant, après 4 ans, exactement la semaine prochaine, je n'ai pas déçu du tout. Ça me plaît énormément. Aussi le décor parisien et tout ça, c'est une rêve.
Parce qu'en plus, c'est évidemment beaucoup plus petit que le Rijksmuseum. Mais dans le Rijksmuseum, finalement, vous êtes un des responsables du Rijksmuseum parmi d'autres. Tandis que là, vous avez vraiment un outil extraordinaire à votre disposition, extrêmement souple. Oui. Dites-nous d'abord, donc la Fondation Custodia, rappelez-nous comment elle est née, quel est son objectif. C'est une fondation de droit suisse, je crois que vous
disiez. Oui. C'était à la base, c'est la collection de Fritz Lucht, hein, aussi très connue en France parce qu'il a catalogué tous les dessins des écoles du Nord, au Louvre, à l'école des Beaux-Arts, etc. Il était très orienté vers la France. Tout ce qu'il a écrit, ou la plupart, a été écrit en français aussi. Ils étaient aux États-Unis, sa famille, sa femme et ses enfants. Et de là, il n'était pas juif, hein, papa, mais il a vu la catastrophe et il est parti pour aux États-Unis. Il était au milieu de sa vie. Il est né en 1884. Alors, en 1940, il avait 56 ans. Voilà. Et il a observé là comment Frick et Barnes et toutes les autres fondations, comment ils ont organisé leur collection et tout ça. Et de retour aux Pays-Bas, en 1947, il a établi la Fondation Custodia pour sauver sa collection, pour le garder ensemble, mais en plus aussi pour servir l'histoire de l'art. Alors le motto, hein, c'est inclus dans les statuts qui ont été composés en 1947, c'est servir de l'histoire de l'art. C'est très idéaliste et pour lui, il était très pratique. De retour des États-Unis, il y avait 15 grandes caisses sur le bateau. Sa femme a fait une collecte de vêtements pour les gens aux Pays-Bas. Et il a visité tous les grandes collections aux États-Unis. Il a acheté tous les bulletins de musée, tous les catalogues de collections qui existaient jusqu'à ce moment. Et ça, il a donné comme cadeau à l'RKD à La Haye, le bureau de documentation de l'histoire de l'art.
Qui est un très bon site internet.
Incroyable, et une collection aussi, un service impeccable. Il était un des fondateurs, et il a laissé ça. Alors, servir l'histoire de l'art, il faut le regarder dans un sens très pratique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de New Art History et des mouvements dans l'histoire de l'art qui sont très théoriques. De temps en temps, je suis complètement perdu quand je suis dans une salle de conférence. Pas pour Lucht. Et moi, j'aime bien garder cette tradition. Lucht, c'est l'homme le plus souvent cité dans l'histoire de l'art. Il y a le Citation Index et Lucht est très haut. Pourquoi ? On ne peut pas ouvrir un catalogue de dessins ou un catalogue de vente où Lucht est sur toutes les pages. C'est à cause des marques de collection qu'il a écrit le premier volume en 1921, le supplément en 1956. Maintenant, c'est une website. Il y a 3 employés à la Fondation Custodia qui sont constamment en train de éditer les notices de Lucht, de les améliorer et de composer des notices pour des marques pas décrites.
Oui, alors nous reviendrons effectivement sur ce site web et sur les bases de données sur lesquelles vous êtes en train de travailler. Mais plus généralement, donc, l'objectif de la Fondation Custodia, c'est de conserver sa collection.
Enrichir la collection. Il y a un budget pour faire
ça. Nous parlerons des acquisitions également.
Et ça fonctionne sur divers niveaux. Alors, il y a les dessins. Alors, je dis toujours, peut-être c'est un peu un cliché, mais après la reine d'Angleterre, le Duke of Devonshire, à Chatsworth, Lucht est un des plus importants fonds collectionneurs privés dans le domaine du dessin. Et ce ne sont pas seulement des dessins néerlandais et flamands, mais aussi maintenant des dessins danois, des miniatures indiennes. Il y a un fonds de dessins français formidable et ces dessins italiens, catalogués il y a 30 ans par James Bimeshaw, c'est vraiment une collection de référence aujourd'hui, avec très détaillé toutes les écoles locales et régionales de l'Italie, très bien représentées. C'est à nous maintenant d'ouvrir cette collection à des chercheurs et pas à les gens avec une Master 2 au Sorbonne, mais à tous les gens qui ont une curiosité. Alors si cette curiosité est authentique, ils sont la bienvenue et ils sont présentés avec les dessins, les estampes et des lettres d'artistes.
Oui, beaucoup de lettres d'artistes dans la collection de Fritz Torst que vous continuez à enrichir. D'ailleurs, nous verrons également les enrichissements tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup de tableaux que les gens ne savent pas forcément. Quand on rentre dans l'hôtel qui l'hôtel Turgot, il y a beaucoup de tableaux au mur. En revanche, c'est ouvert, si les gens veulent voir, ils peuvent le demander, mais ça n'est pas un musée.
Non, c'est trop vulnérable. C'est vraiment... Lucht n'a jamais habité hôtel Turgot. Peut-être les gens sont au courant, mais hôtel Turgot, c'est la seule hôtel particulier du 18e siècle, qui existe encore dans la rue de l'université. Alors, 4,5 km de rue de l'université, et tout est Haussmann, très bien, mais ça existe encore, parce que c'était un monument classé au moment des travaux Haussmann, et on a dû le garder. Il y a un an, nous avons acheté une terre cuite de Turgot, et si on entre maintenant au hôtel Turgot, il fait l'accueil, on se trouve chez lui. Lucht n'a jamais vécu là, il était place Bourbon, mais il était au courant que les deux bâtiments, hôtel Turgot et hôtel Lévy-Mirepoix, étaient sur le marché, étaient à vendre, et il a, en 1953, il n'a pas hésité, il a acheté les deux bâtiments tout à côté de l'Assemblée nationale, sur un lieu un peu chic, si on peut dire, mais maintenant, à cause de l'établissement de Gare d'Orsay, de musée Rodin, de toutes sortes de... On est vraiment dans une ambiance formidable pour nous, parce que je vis là, c'est formidable d'être à 10 minutes du Grand Palais et tout ça, j'en profite énormément. Et ça, pour la Fondation Custodia, c'est à mon avis primordial d'être bien localisé. Et...
Alors justement, ces collections qui sont installées dans l'hôtel Turgot, on verra ensuite, il y a une bibliothèque très importante. Vous me disiez que c'était la 4e bibliothèque d'histoire de l'art en France. Donc, une bibliothèque très importante, on en parlera également. Et vous aviez également, vous cohabitiez, plutôt vous louiez une partie de cet hôtel Turgot.
Turgot
a toujours été vous.
Utilisé par nous, mais l'autre hôtel.
L'autre hôtel, Lévy-Mirepoix, c'est ça.
Est établi en 1895, alors Haussmann, par Louis Parent. Ça donne sur la rue de Lille, et ça était jusqu'à la fin de l'année dernière le lieu de l'Institut néerlandais. Alors, le ministère des Affaires étrangères a décidé de finir l'existence.
Le ministère des Affaires étrangères néerlandais.
Oui. L'initiative d'y établir l'Institut néerlandais venait aussi de Lucht, qui a convaincu le ministère juste après la guerre, d'établir un institut néerlandais, pendant de Maison des Cartes à Amsterdam, mais ça a duré 56 ans, et maintenant c'est terminé. Et c'était un moment compliqué dans notre existence, parce que ce grand bâtiment, 5 étages, c'est vaste, ce sont 250 mètres carrés par étage, ils étaient en grande partie libres, après le départ de l'Institut néerlandais.
L'Institut néerlandais, vous payez un loyer.
Un loyer. Oui. Le ministère nous a payé un loyer, mais c'était nous sommes le propriétaire. Alors, après un débat dans le conseil administratif de la Fondation Custodia, un groupe de gens très impliqués dans l'existence, il y avait l'idée, est-ce qu'il faut peut-être partir de la France, est-ce qu'il faut, vendre le bâtiment à nos voisins, l'Assemblée nationale, ils ont très envie de
rétrospectivement, vous me faites peur.
Mais c'est bien, mais j'ai demandé une time-out et je disais peut-être j'arrive à garantir une utilisation plutôt dans le domaine culturel. Et j'ai vite regardé autour de nous. Heureusement, l'ambassade néerlandaise a voulu un étage entier pour le délégué culturel de l'ambassade. Il fait des Il l'appelle maintenant Atelier néerlandais. Et c'est aussi, ça reste un lieu pour la rencontre entre les Français et les Néerlandais. Et j'ai trouvé un partenaire impeccable dans la Terra Foundation for American Art, qui avait déjà leur bureau à Paris.
Et, qui autrefois était à Giverny.
Oui, à Giverny. Ils ont leur base à Chicago. Et maintenant, ils ont signé un contrat de bail pour 10 ans, il y a quelques semaines. Je suis très content de ça. Et ils vont vivre avec nous au deuxième étage. Et pour tout réaliser ça, la bibliothèque, que les gens connaissent probablement, qui se trouve au deuxième étage, va au quatrième étage. Ça sera plutôt histoire de l'art. Avant, il y avait aussi un grand fonds littérature néerlandais. Ça a été donné à l'université de Lille, avec un grand département de langue néerlandaise. Et alors, on va établir la bibliothèque au quatrième étage. Pas de bruit, là, des fenêtres triplement isolées. Et c'est un endroit formidable, des lieux très hauts. Et là, on va créer un accès libre pour un grand nombre de titres. Alors, les utilisateurs de la bibliothèque peuvent se servir et laisser les livres sur la table. Et ça va vraiment se développer. Il faut redéfinir le profil. On ne peut plus prêter des livres comme avant, mais ça sera une bibliothèque histoire de l'art. Et je me réjouis énormément d'offrir ce service au public.
Qui sera ouverte quand, donc, cette bibliothèque?
C'est prévu pour disons-nous, l'hiver, ça doit être en fonction. Mais ça veut dire aussi que le titre qu'on ne trouve pas dans la bibliothèque au Louvre, il y a une concentration dans le fond.
La bibliothèque du Louvre, est-ce qu'elle est accessible à tous?
Oui, je pense.
Parle de la bibliothèque, parce qu'il y a une bibliothèque, la bibliothèque, je ne sais plus exactement, c'est la bibliothèque. D'après la bibliothèque du Louvre, va aller à l'INHA normalement.
Oui,
c'est
dans le futur. Ça sera aussi formidable si ce moment est là. Quand même, il y a une concentration dans notre bibliothèque, et les conservateurs du Louvre, comme Blaise Ducosse, disaient « Oui, oui, il y a beaucoup de titres chez vous qu'on ne trouve pas chez nous, et c'est aussi bien si on est complémentaire. » À cause de l'orientation de Carlos van Hasselt, nous avons un fonds sur l'art danois incroyable. Tous les guides, la description des églises et tout ça, on trouve ça à la Fondation Custodia. C'était pour moi une grande surprise de trouver dans tous les étagères ces titres-là. Carlos avait aussi une bibliothèque privée qui est chez nous maintenant, et c'est vraiment formidable. Mais aussi sur l'art italien, espagnol, c'est vraiment très, très, très riche. Oui.
Alors la Terra Foundation, donc, s'installe quand dans vos locaux? C'est déjà fait?
Oui, il y a des choses à préparer. Tout le bâtiment sera rénové, les câbles, tout l'électronique et les ordinateurs, ça doit être revu. Mais l'idée, c'est d'offrir l'étage en juin de l'année prochaine. Et on va aussi offrir les livres sur l'art américain, leur fonds, dans notre bibliothèque, dans notre salle de lecture. Et nous avons parlé d'une certaine synergie entre la Fondation Custodia et la Fondation Terra. Et c'est vrai, c'est peut-être un peu comique, l'URT, ça veut dire air. Et Terra, c'est terre. Alors on a déjà deux éléments ensemble.
Ne pas le feu.
Mais la synergie, et j'ai proposé aussi de faire des expositions ensemble dans le bâtiment. Et on est en train maintenant de parler d'une grande exposition de dessin de Willem de Kooning, né aux Pays-Bas, et il est devenu un grand artiste à l'autre côté de l'océan. Et j'aime bien, dans le futur, penser avec eux à des projets ensemble. Ça sent très bien.
Donc les expositions auront lieu, comme aujourd'hui, au premier étage, au sous-sol.
Et le sous-sol à Lévis-Mirepoix.
Oui. Mais eux-mêmes auront une salle d'exposition?
Non. Ils vont exposer chez nous, parce que l'étage loué, ça suffit pour les bureaux et pour les conférences et tout ça, mais pas pour les expositions.
D'accord. Alors, ils exposeront, ça sera à la fois du XXe siècle et du XIXe siècle américain.
Oui, et de la période coloniale et tout ça. C'est entre le XVIIIe siècle et le milieu du XXe. Et tu sais, il y a des projets au National Gallery à Londres qu'ils ont soutenus. Hein,
oui, ont... comme par exemple récemment.
Et l'idée, c'est dans le futur de programmer avec eux, alors une venue à Londres et après ou avant à Paris.
D'accord.
C'est formidable. Non. Frederick Church and the
Frederick
American
Church, on a, j'en ai parlé sur le site.
J'ai vu l'exposition il y a un an et quelques au National Gallery. Nous avons un fond, j'aime bien en parler, de ce qui se fait en plein air. Hein. C'est un des domaines où nous sommes en train
d'explorer. On viendra dessus également, oui.
Et je me disais, en visitant cette exposition, pourquoi pas cette exposition en France ? Parce que c'est formidable, les cascades et les montagnes.
Mais en revanche, vous ferez toujours, vous, Fondation Plus de Dire, autant d'expositions qu'avant.
Oui. Nous avons toujours organisé les expositions, mais ils étaient présentés sous la bannière de l'Institut néerlandais.
Oui, c'est vrai.
C'était un moment dur, 2 janvier, nous avons enlevé cette bannière qui était là depuis longtemps, et nous sommes en train de nous redéfinir, hein, de faire un autre profil. Alors j'ai fait faire une bannière Fondation Custodia, si on arrive maintenant dans la rue de Lille, on voit ça. Mais après 3 semaines, je me disais, Fondation Custodia, si on n'est pas bien informé, ça peut aussi être une fondation pour les aveugles.
Oui, ça ne parle pas vraiment.
Et à côté, maintenant, il y a une deuxième bannière qui dit exposition, et ça devient clair maintenant. On fait un peu de la communication déjà à la façade du bâtiment, et si on entre, c'est un peu différent comme avant. Avant, c'était plutôt une école pour la langue, et il y avait des soirées musicales et tout ça. Maintenant, la concentration, c'est sur les arts en général.
Alors, le ministère néerlandais, donc, qui a une antenne également, qui a gardé une antenne finalement, un
néerlandais, mais quand même. Oui.
Ce sera pour des expositions également à leur étage,
ils font des... Oui, non, pas leur étage, non. Mais ils sont aussi la bienvenue. Il faut savoir que programmer des expositions toute l'année par la Fondation Custodia, 24 employés, c'est déjà impressionnant que 24 familles basent leur existence sur l'héritage de Fritz Lucht et sa femme. C'est formidable, c'est un petit musée. Mais quand même, avec une équipe comme ça, on ne peut pas garantir toute l'année des expositions. Comme avant, il y avait 2 moments d'exposition. J'aime bien avoir 3. Faire des expositions en plein été, tu sais, c'est un peu dur. Mais d'avoir 3 moments, et c'est à nous de programmer ça en discours avec la Terra Foundation et l'ambassade. Et l'ambassade a envie encore de montrer la photographie, la typographie, le design et tout ça. Et c'est complémentaire, alors c'est bien.
Alors on reviendra sur le programme d'exposition tout à l'heure. Pour les travaux, continuons sur ce que vous avez fait depuis que vous êtes arrivé, et depuis effectivement que... En plus, l'Institut néerlandais est parti. Vous avez fait beaucoup de travaux.
Oui.
En particulier, j'ai visité l'hôtel. Des sous-sols, donc je ne sais pas les sous-sols où ils étaient.
Mais hôtel Turgot.
Hôtel Turgot. Dans l'hôtel Turgot, vous avez fait par exemple des réserves extrêmement modernes.
Oui.
On aimerait avoir ça dans tous les musées français.
Oui. J'ai découvert là qu'il y avait un faux plafond, mais sous ce faux plafond, il y avait les voûtes d'origine, 1743. Et je me disais, pourquoi pas ouvrir ça et montrer la volume, la capacité du bâtiment d'origine. Et j'ai tout enlevé et nous avons créé là un espace pour une réserve pour les cadres d'époque, pour les tableaux pas exposés mais disponibles tout à côté des salles. Et aussi pour l'art sur papier. Vous avez parlé de l'incendie à Glasgow.
Et, oui.
Il y a toujours ce risque avec des bâtiments anciens. Nous avons vu des câbles entourés de coton et des choses comme ça, avec un énorme risque de court-circuit.
Oui.
Et ça, c'est primordial. Ça, on a tout enlevé. Maintenant, si on sort et on touche le bouton, toute l'électricité dans les réserves est éteinte. Alors, on ne risque plus des choses comme ça. Et ça me fait grand plaisir d'aller avec la Fondation dans une autre étape de l'existence.
Et vous avez également, donc vous avez dit, vous avez des cadres, vous avez il y a beaucoup de tableaux. Alors, curieusement, vous n'exposez pas, vous n'êtes pas vraiment un musée, puisque vous n'exposez pas à des gens qui viennent en permanence voir les œuvres. Mais c'est vrai que dans l'hôtel Turgot, il y a beaucoup de tableaux exposés. On parlera tout à l'heure des acquisitions récentes, notamment, qui sont dans l'escalier. Vous avez fait vraiment un cabinet de paysages 19e siècle absolument extraordinaire. Mais il y a aussi donc des tableaux qui sont dans les réserves, que vous ne pouvez pas exposer. Vous avez combien de tableaux à peu près, vous savez?
Non, je ne sais pas. Avec cette accélération dans le domaine, ce sont les esquisses, c'est un peu entre tableaux et dessins.
Hein. C'est des huiles, donc...
On peut les compter avec. Je pense qu'il y a environ 400-450 tableaux.
C'est, et dessins, rappelez-moi des dessins.
Environ 10 000 et, une et 30 000
estampes.
Œuvres sur papier.
Donc 20 000 estampes et 10 000 dessins.
Oui, et en plus, il y a 55 autographes, lettres d'artistes.
55 000
de, oui, 55 000, oui. C'est énorme.
Donc c'est vraiment une très grosse collection, on peut le dire. Enfin, c'est
Si on le voit, parce que tout est très bien soigné, hein, les lettres sont bien dans les boîtes, vous l'avez vu aussi. C'est impressionnant. Et la richesse qu'on fond pour l'histoire de l'art, ça est énorme. Il y a deux semaines, on a installé dans le sous-sol un des espaces avec comme destination, à mon idéal, d'être studio photo. C'est beaucoup trop compliqué de photographier, de numériser les choses hors maison. Alors nous avons contacté une entreprise aux Pays-Bas, Picturé, je donne le nom parce qu'ils sont formidables, ils sont dans l'avant-garde de leur métier. Et ils se sont basés, nous avons fait un partenariat. Et là, on a attaqué maintenant à numériser les dessins après les lettres d'artistes. Et ça sera formidable.
Et
tout
alors
sera disponible en ligne. Et comme à Washington, comme à New York, au Rijksmuseum, à libre accès. Ça, pour moi, c'est servir l'histoire de l'art, ça va tomber là-dessus.
C'est fondamental et je pense que c'est un mouvement qui est en train de se développer. Oui, oui. Partant justement, alors je ne savais pas que le Rijksmuseum également, c'est le cas.
Oui, dans le Art Newspaper, de la dernière numéro, il y avait une grande interview avec le directeur. Il disait, c'est beaucoup plus facile de laisser libre. Et juste après, nous étions aux États-Unis la semaine dernière, et le Metropolitan Museum a aussi annoncé de le faire comme ça. Le British Museum, maintenant, je pense, on ne peut plus rester en arrière.
On en a parlé la semaine dernière avec notre invité qui était Bernard Askenoff, que vous connaissez peut-être, du Louvre pour tous, qui est un grand défenseur justement à la fois du droit de photographier dans les musées et également donc de la, enfin, un peu comme nous, pour demander à ce que toutes ces photos, qui d'ailleurs, sur le fond, le droit photo et même le droit photo du photographe est un peu c'est un peu absurde parce que ce sont des œuvres dans le domaine public. Alors évidemment, vous ne pouvez pas donner l'autorisation pour des œuvres qui ne sont pas dans le domaine public, mais là on parle pour la plupart d'œuvres dans le domaine public, et qu'une reproduction, encore une fois, ce n'est pas une œuvre originale, donc il n'y a pas de droit d'auteur. Mais on sait que beaucoup d'institutions vendent cela, en particulier malheureusement en France. C'est vrai que le ministère de la Culture actuellement est en train de libéraliser, de libérer les données, disent-ils, mais pour le moment je ne crois pas que les grands musées français ou que la Bibliothèque Nationale ou que la RMN, etc., donnent ces photos.
Oui.
Et c'est vrai que ça vient des États-Unis, ça vient donc, c'est formidable qu'en France, une institution qui, même si elle n'est pas française, est en France, donc comme la Fondation
Custodia. J'aime bien donner un exemple.
Donc donne l'exemple.
Mais honnêtement, je regarde ça maintenant depuis 4 ans. Les gens entrent la Fondation et énormément de gens sont intéressés dans les lettres d'artistes. Nous avons un fonds, Fontaine Latour, Ingres, tout ça, et ils entrent le bâtiment et ils me demandent, ou à les jeunes qui font l'accueil, est-ce que c'est permis de photographier? On ne peut pas dire non, parce que ils doivent lire tout sur place, avec une correspondance de 300 lettres, ça ne va pas. Alors ce que je vois, c'est comme dans le Wild West, on fait la caméra photo et on fait des shoots après l'autre. Si en observant ça, je me disais, non, ce n'est pas correct, c'est à nous de faire de faire numériser ça, impeccablement, lisible, et les mettre en ligne. Et il y a des gens là, partout, qui ont énormément de temps libre et ils aiment bien faire des transcriptions des lettres comme ça. De l'amour pour un artiste, ils peuvent lire le gothique, le script gothique en Allemagne, tout ça. Ça veut dire que j'expecte un énorme retour des gens qui aiment bien servir l'histoire de l'art comme nous, et on peut mettre avec les images une transcription et vraiment faire le contenu de ces lettres accessible à tout.
Alors effectivement, il y a sur Internet beaucoup d'initiatives de ce genre. Vous y rajoutez le fait qu'ensuite les gens peuvent éventuellement utiliser l'image comme ils le veulent.
Oui, oui.
Les nouvelles très très brèves. Encore un mois pour la souscription pour l'achat du Princeteau, René Princeteau. Bénédicte Boulay-Saint-Georges, vous en avez parlé dans une brève de cette souscription lancée par le musée de Libourne. Le tableau de René Princeteau s'appelle « Patrouille de Hulan, surprise par une embuscade de francs-tireurs ». Et le prix demandé était de 10 000 euros, ce qui est assez raisonnable pour un tableau. Il manque à l'heure actuelle seulement 1 500 euros. Je dis seulement parce que déjà le prix était assez faible, 1500 euros c'est encore moins. Pour une souscription, ça doit, on doit pouvoir y arriver et la souscription court toujours jusqu'à fin juin. Donc vous pouvez encore donner, même si on ne voit pas maintenant comment l'œuvre pourrait échapper à ce musée, on ose espérer que, que la ville donnera, complétera si jamais il manque quelques centaines d'euros. On voit mal ce tableau ne pas entrer au musée de Libourne. Patrimoine sans frontières lance un appel pour la protection du patrimoine à Pristina au Kosovo. Nous mettrons en ligne sur la page consacrée à l'émission le communiqué que nous a envoyé cette ONG, particulièrement utile et courageuse. Nous avons parlé de Patrimoine sans frontières il y a quelques années dans un article, je mettrai également un lien sur la page. Comme beaucoup d'anciens pays communistes, hélas, la libéralisation de ce pays s'est accompagnée aussi d'une spéculation immobilière très importante, entraînant de nombreuses destructions de monuments historiques. Le Kosovo, déjà touché par la guerre yougoslave, n'a pas été épargné par ce phénomène qui revient à nier sa propre histoire. Il faut espérer qu'ils arriveront à sauver ce qui peut l'être. On lit partout dans la presse, internet, à nouveau, j'allais dire, c'est une histoire sur laquelle, dont j'ai déjà parlé, ça va peut-être faire rire Rare Lawton, que le voleur du Rembrandt a été écroué. Ça, on lit ça partout, France 3, le site du Parisien, d'Europe 1, de BFM TV, de Barrage, vous savez, c'est ce fameux tableau de Draguignan. Je pense, Rare, que vous êtes d'accord avec moi, ça n'est pas un Rembrandt.
Non.
Ça fait rire Rare, parce que ça fait rire tous les historiens de l'art un peu sérieux. C'est un peu désespérant parce que on a beau écrire que ce n'est pas un Rembrandt, on a beau donner nos sources, c'est-à-dire Jacques Foucard, c'est-à-dire Vincent Noce a interrogé le plus grand spécialiste de Rembrandt. Tous les historiens de l'art que nous connaissons et qui ont un petit peu d'œil ont dit que ce tableau n'a jamais été un Rembrandt. Mais bon, c'est un mensonge qui devient une vérité. Un Rare donc nous confirme que ça n'est pas un Rembrandt, mais on l'a lu dans le journal, donc ça va être un Rembrandt. Hein. Bon, si le voleur est bien un voleur. Et par parenthèse, il est quand même heureux qu'il soit inquiété par la justice, parce qu'il a quand même volé un tableau qui n'est pas un Rembrandt, mais qui est quand même un tableau de musée. C'est normal qu'il ait à en rendre compte devant la justice. Apparemment, il pensait que c'était prescrit, manifestement ça ne l'était pas. Le Rembrandt n'est pas de Rembrandt. C'est un fait indiscutable, mais évidemment, cela ferait vendre moins de papier ou moins de clics sur Internet si on dit que c'est pas Rembrandt. Mais ça n'est pas Rembrandt. S'il y a des journalistes qui m'écoutent, on peut le démontrer de manière très simple. J'étais hier à Lens, au Louvre-Lens, pour visiter l'exposition Les désastres de la guerre. C'est une bonne nouvelle parce que pour une fois, je vais pouvoir dire du bien d'un événement se déroulant au Louvre-Lens. Je pense depuis le départ que la Galerie du Temps est une absurdité, que l'antenne du Louvre à Lens est une absurdité, mais il y a également des salles d'exposition, et les salles d'exposition abritent des expositions qui sont ce que font les commissaires, c'est-à-dire qu'elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Celle sur la Renaissance, la première, semblait être plutôt bonne, mais je n'en avais pas vraiment parlé parce que je n'avais pas vraiment vu. Donc, faute de temps, je l'avais visité trop rapidement. J'avais pas pu vraiment en parler. Celle sur Rubens était d'une médiocrité assez rare. Je l'avais écrit. Je n'avais pas vu celle sur les Étrusques. Ça sort du champ traité par les tribunes de l'art. Mais les désastres de la guerre, dont la commissaire est Laurence Bertrand d'Orléac. J'ai vraiment plaisir à le dire, une bonne exposition qui permet notamment de découvrir beaucoup d'œuvres inconnues du 19e siècle en particulier. J'en ferai un article et je reproduirai quelques-unes de ces œuvres qu'on voit peu, dont par exemple un très beau tableau de Auguste Vinchon qui est conservé dans les réserves du Louvre et que je n'avais pour ma part jamais vu. C'est un tableau qui a besoin d'un cadre mais qui mériterait à son retour au Louvre, pas au Louvre Lens, au Louvre Paris, d'être présenté. Donc les auditeurs ou les lecteurs de la Tribune de l'Art qui n'ont pas encore vu le Louvre-Lens et qui par curiosité voudraient y aller, auront là une bonne occasion d'y aller puisque, bien sûr, il y aura la Galerie du Temps, ils verront des œuvres du Louvre qui sont, c'est vrai, il faut le reconnaître, mieux présentées qu'ils ne peuvent l'être au Louvre, même si ça ne suffit pas à justifier l'existence de cette Galerie du Temps. Et en tout cas, ils verront une exposition qui vaut vraiment le déplacement. Je me retourne à nouveau vers Rare Lawton. Je prononce bien parce que je prononçais Lawton et c'est Lawton, m'a-t-il dit. Donc voilà, maintenant, plus personne ne peut ignorer qu'on a dit Rare Lawton. C'est assez compliqué le néerlandais pour les Français. Oui. Donc, vous parliez de la recherche donc, et vos projets, les bases de données. On vous en avait parlé, les bases de données, vous avez parlé largement. Les marques de collection également. Moi, je me rappelle effectivement que les marques de collection, j'étais très heureux quand j'étais étudiant. J'avais dû trouver les deux volumes d'occasion où il y avait un reprint, je crois. Oui, parce que c'était assez cher, en fait. Oui, il y a eu un reprint.
Il y a un reprint pirate de Wolseley. Ah, c'était
pirate.
À Los Angeles.
Oui, c'était pirate. Mais finalement, c'est vrai que c'était épuisé ou c'était extrêmement cher
mais c'était épuisé. Maria, mon prédécesseur, a eu l'audacité de recommencer les notices et elle a fait au début l'idée de l'intention de le publier encore en supplément, en livre. Il y avait des rencontres avec des collègues du Louvre, de la British Museum. Moi, j'étais invité aussi. Et avec l'équipe qui a été établie, on a dit, non, non, aujourd'hui, il faut le présenter en ligne. C'est très bien, la maquette est formidable, c'est très agréable d'être là. Et parce que cette remarque dans les catalogues non cités par Lurt, si ce n'est pas cité et on peut l'identifier, on peut le mettre en ligne tout de suite. Alors ça, c'est très, on peut être proactif et réagir. Et il y a dans notre monde énorme de gens qui sont impliqués, qui nous répondent, qui envoient des images.
Et vous avez beaucoup, alors, il y a beaucoup de nouveaux, on en trouve
oui,
tous les
oui,
jours.
Oui, tout le temps. L'équipe, il donne une liste tous les mois des marques maintenant répertoriées et je lis avec plaisir pendant les soirées comment ça se passe et c'est un travail énorme, hein. Vous pouvez imaginer.
C'est-à-dire pour chaque marque, il faut rechercher qui était le collectionneur.
Lurt l'a fait, hein. Il a fait des notices, alors le collectionneur né à tel moment, mort là, le caractère de sa collection, comment établi, quand vendu, pour quel prix, et c'est d'une minutiosité incroyable et ça continue maintenant. Et je pense que ça sera un projet éternel. Alors, dans notre existence, il faut continuer parce que c'était à la cœur de Lurt et je pense qu'il y a encore une énorme curiosité de comprendre l'histoire, de collectionner des gens qui étaient là. Tout ça, ça sert vraiment l'histoire de l'art. Heureusement, on a les moyens de le faire et je suis très... C'est invisible si on veut, mais pour les gens qui tapent www.marquedecollection.fr, c'est très, 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 très gratifiant de l'utiliser. D'ailleurs, ça, c'est un grand projet de recherche. Ça mange une partie du budget. Mais je pense que
le budget sur que vous ne me donnerez pas. Je sais que je vous avais interrogé sur le budget global, vous ne souhaitiez pas le
non,
communiquer.
Ça ne va pas, mais c'est assez pour garantir ça, oui. par exemple. Et à côté de ça, nous avons maintenant créé une fondation de dotation en France, parce qu'il y a des projets de recherche que nous aimons bien mener, mais qui sont trop chers et trop compliqués à être payé par nous. Il y a le marque de collection et autour de ça, il y a des autres désirs. Alors, finalement, nous avons résolu cette idée de base de données et mettre la collection en ligne. C'est aussi un grand projet qui va durer longtemps, mais les images, ça va vite au moins. Et autour de ça, Lurt, tu l'as vu souvent déjà, il a toujours gardé ses dessins dans les albums d'époque, dans les albums factice. Alors, ce sont pour les gens qui ne connaissent pas des grands volumes, des grands reliures, avec en papier des pages libres, un peu type atlas si on veut, avec un papier utilisé, c'est très stable, très gommé, et entre les feuilles, on met des petits passe-partout avec les dessins. C'est vraiment une façon de garder les collections au 17e, 18e et 19e siècle. Après, ils sont venus les box, les boîtes, et ça a tout changé. Mais chez nous, on garde ça encore comme ça, avec une ordre plutôt iconographique. Alors, les études de figures ensemble, et les paysages, et les scènes bibliques, et tout ça, pour toutes les écoles. Et ça fonctionne bien, et j'aime bien le faire, le garder. Mais au même moment, on dit les papiers, la qualité de ces reliures, l'histoire de collectionner comme ça, c'est bien de mettre ça une fois en ordre, et ça est en train d'être formulé comme un grand projet de recherche avec des conservateurs d'Allemagne, des Pays-Bas et notre restauratrice Corinne Laetitier, et j'aimerais bien inclure une fondation comme la fondation BNP Paribas pour montrer ce que ça donne et finalement présenter tout ça dans une exposition dans quelques années. Alors, regardez le contenu, le papier, si c'est acide ou pas, et conserver ça bien et le donner dans les mains de nos successeurs dans le futur. Cette idée de pérennité, malgré la vulnérabilité du matériel, est très à la cœur de la Fondation Custodia.
Donc, est-ce que vous avez d'autres projets de recherche en cours, des projets de recherche fondamentaux?
Oui, une recherche fondamentaux, les textes ont été faits. Il y a une équipe de 3 chercheurs néerlandais sur nos lettres d'artistes italiens.
Oui.
Alors, dans le futur, on va tout trouver sur le website de la Fondation Custodia, mais quand même, ce projet a duré déjà 20 ans et le manuscrit a été soumis il y a un an et nous allons publier, idéalement à la fin de cette année, sinon l'année prochaine, un grand livre sur les lettres d'artistes italiens pour aussi mettre le focus sur ce domaine de la collection et en général de montrer au public ce que ça peut donner pour les chercheurs. C'est vraiment une source incroyable.
Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que
un livre avec les lettres transcrites,
oui. Transcrites, oui.
Et annotées.
D'accord. Oui. Toutes les lettres italiennes.
Italiens, d'ailleurs, de certaines écoles. Hmm. Pas tout, mais ça sera un grand livre dans l'esprit de tous les livres de collections de la Fondation Custodia, comme les dessins italiens.
Mais qui seront également en ligne, c'est ça, vous dites?
Oui, et dans le futur, oui. On va le trouver en ligne aussi, mais il y a énormément de gens qui préfèrent un livre, et je pense que la collection est d'une telle importance que ça vaut vraiment la peine de le publier encore en livre. Mais aller en ligne, ça ne veut pas dire ne plus imprimer.
Je suis d'accord avec vous, oui.
J'étais à Washington la semaine dernière pour le congrès, la conférence de tous les chefs de cabinet des estampes. Ça s'appelle en France la Club de 50 Luxe. Moi, j'étais le président de ce club il y a 4 ans et 2 ans. J'ai fait une conférence pareille à Rome et à Vienne. Maintenant, c'était à Washington. Et un des grands soucis de tous les cabinets avec des grands collections...
Des estampes et dessins, d'accord.
Des estampes et dessins, des photos en plus. Et c'est, tous les collections vont en ligne et on est un peu perdu sur les websites, sur les bases de données. Ouais. Et ce que j'ai fait, et c'est l'exposition qui est au courant maintenant, qui est ouverte encore jusqu'à 22 juin, aussi reviewé par la Tribune de l'Art très positivement, c'est un choix de dessin du musée de Boijmans,
oui.
Le musée Boijmans van
Deuren
à Rotterdam. Et là, nous avons fait un choix de 140 dessins, d'un total de plus de 400 sur les écoles du Nord, 15e, 16e siècle, les plus lisibles, les plus importants, entre Jérôme Bosch et Abraham Blumhardt. Et ils sont maintenant sur les murs. Et nous avons publié le catalogue avec des images comparatives. Alors c'est à part ou à côté, c'est complémentaire à la base de données. Il y a maintenant cette exposition aussi pour montrer toutes les découvertes et les attributions nouveaux. Tout ça, ça est présenté maintenant en France et on va continuer à faire ça. Avant-hier, j'étais en contact avec le Städel à Francfort. Un grand ami de moi est en train de faire un catalogue du fonds des dessins italiens de la Renaissance. Et pendant le salon du dessin, l'année prochaine, on va présenter sur les murs de la Fondation Custodia, Michel-Ange, Raphaël Titien, des dessins du Städel. J'ai convaincu le directeur, Max Holland, que c'est formidable pour eux de transporter les dessins du Main au Seine et de les montrer aussi à un public très 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 intéressé en France. Et pour moi, c'est très important de montrer que nous allons faire des expositions aussi hors le domaine des écoles du Nord. Et on va voir autre exposition en plus.
Alors, il y a quelques années, là, et même encore récemment, si je me rappelle bien, il y avait... on présente également parfois des collections de musées de régions françaises.
Des tableaux, oui.
Des
oui.
tableaux, par exemple.
Oui, oui, oui.
Ça, c'est des choses que vous souhaitez continuer également?
Oui, évidemment. Sauf pour l'instant, nous avons dit qu'il faut mettre en ordre le catalogage de nos tableaux à nous et les présenter en ligne. Mais tu as raison, la collection de Rouen, de Quimper, de Montpellier, de Lyon, c'est une histoire très forte avec la Fondation Custodia. C'était déjà une idée de Fritz Lucht et de Carlos van Hasselt, aider les collections en France pour cataloguer leur collection. C'est formidable.
Nous reviendrons donc sur les expositions et sur le programme des expositions après la revue de presse. La revue de presse. Encore un article sur un sujet qui, vous le savez, nous tient à cœur et qu'on en trouve beaucoup donc, dans la presse. Donc, c'est également grâce au lancement d'une pétition par deux Américaines contre les cadenas, dits cadenas d'amour. Moi, ça m'énerve, cette cadenas d'amour, c'est grotesque, enfin bref. Donc un article de l'Express qui dit « Anne Hidalgo souhaite décrocher les cadenas de Dupont des Arts ». C'est intéressant sur la manière dont se crée l'information et de suivre une information, comment elle peut se évoluer et parfois se déformer. Parce que la mairie de Paris a mis sur son site, je crois, je n'ai pas retrouvé avant cette émission, mais j'avais vu la lettre de mission, les missions données par Anne Hidalgo à ses adjoints. Et celle-ci a demandé à Bruno Julliard, l'adjoint chargé entre autres du patrimoine, de trouver des solutions alternatives, je cite, des solutions artistiques, solidaires, écologiques, pour remplacer les cadenas, entre guillemets, d'abord du Pont des Arts. J'aime beaucoup le côté artistique, solidaire, écologique. Le Parisien en conclut, et nomme son article, vers la fin des cadenas de l'amour. Bon. C'est un titre qui correspond à peu près à l'information donnée. Mais l'Express va citer cet article, va s'inspirer de l'article du Parisien, lui-même tiré du texte donné par Anne Hidalgo à Bruno Julliard, et va titrer « Anne Hidalgo souhaite décrocher les cadenas du Pont des Arts ». Ça n'est pas exact, c'est pas tout à fait ça. C'est un peu osé de dire ça. Simplement, elle dit « faut étudier une solution qui permettra de... » La solution, elle est simple. Si on veut se débarrasser de ces trucs horribles, il faut les enlever d'un coup. Donc ça peut prendre 2, 3, 4 jours, 5 jours, mais c'est faisable. Remplacer les grillages. Faire passer régulièrement quelqu'un qui enlèvera les nouveaux cadenas qui pourraient être mis. Ça, c'est assez facile. C'est comme on efface les tags au fur et à mesure. Éventuellement, si quelqu'un a réussi à les mettre, il faut évidemment les verbaliser. 50 ou 100 euros, ça devrait dissuader les gens. Et finalement, on arrivera assez vite. S'il faut un peu de volonté politique, c'est pas très compliqué, un peu de courage politique pour se débarrasser de ça. Alors après, si Anne Hidalgo ou si Bruno Julliard veulent inventer d'autres solutions pour remplacer ces canadiens, peut-être. Mais j'ai un peu peur, en fait. Hein. J'ai un peu peur, je vais vous dire, parce que j'ai un peu peur que ces cadenas soient remplacés par quelque chose qui sera aussi moche ou aussi débile. Ils sont capables de trouver pire. Hein. Je pense qu'ils sont capables de trouver pire. Le pire n'est jamais exclu. Autre article de Harry Bellet dans Le Monde à propos des débats sur la collection Peggy Guggenheim au Fils Tribunal à Paris. On sait que des descendants, pas tous, de Peggy Guggenheim estiment que la fondation ne respecte pas la volonté de la donatrice. C'est évidemment la fondation Peggy Guggenheim la collection Peggy Guggenheim à Venise. L'affaire est jugée à Paris et ce sera une affaire intéressante à suivre car même si les œuvres concernées sont hors du champ que nous traitons, on est ici proche des dérives que nous dénonçons régulièrement dans d'autres lieux. C'est-à-dire que la collection n'est pas présentée, elle est envoyée un peu partout. Peut-être qu'elle est louée, je ne sais pas si les œuvres sont louées ou pas. En tout cas, c'est une collection qui n'est pas vraiment présentée. Et contrairement, par exemple, à vous présenter des œuvres, là, ça ne vous viendrait pas à l'idée de louer vos œuvres pour les envoyer ailleurs. Vous les présentez, vous les prêtez. Je pense que vous prêtez beaucoup aux expositions. Oui. Là, effectivement, il y a manifestement une dérive par rapport à ce que souhaitait Peggy Guggenheim. Alors, est-ce que cette dérive doit être condamné ou pas, je ne sais pas, ça sera au tribunal de trancher, mais c'est une affaire qu'on suivra d'un petit peu loin, peut-être on en parlera effectivement dans cette émission de temps en temps, pas forcément pour en faire un article. Florence Evin, toujours dans Le Monde, écrit sur le conflit entre le directeur et les élèves à l'École des Beaux-Arts. Ce conflit est l'occasion de rappeler certains articles que nous avions consacrés à l'utilisation indue de ce monument pour des manifestations qui n'ont rien à y faire, comme des défilés de mode. Cela prive les élèves de leur salle de cours, mais ça menace aussi la pérennité des œuvres qui sont conservées. Donc, je pense que les élèves ont raison d'être opposés à l'utilisation de l'école qui les prive souvent de leur classe de cours, qui les gêne dans leur scolarité. Et faut pas oublier que l'École des Beaux-Arts était, d'une part, c'est une école, mais c'est aussi depuis toujours un musée qui conserve des œuvres, et il faut aussi un peu penser à ces œuvres. Je terminerai par cette revue de presse. Non, je ne termine pas tout à fait cette revue de presse par l'article de Michel Guérin. Alors, j'aime bien Michel Guérin, je le connais personnellement, c'est un ami. Mais pour lire dans Le Monde un article intitulé « Paris dans le formol », on se demande ce qu'il lui a pris. Un article qui est totalement incompréhensible, on mettra le lien bien sûr sur la page du site. Après avoir dit tout le mal qu'il pensait du jugement du tribunal administratif qui mettrait « Paris dans le formol », entre guillemets, vieil argument hein, que nous ressortent tous les soi-disant partisans de la modernité qui ne savent pas lire un PLU et qui n'admettent pas qu'un tribunal soit là pour dire le droit, Michel Guérin relie cette affaire à celle des cadenas, justement, sur les ponts, feignant de s'étonner que les juges ne donnent pas leur avis à ce sujet. On aimerait savoir à quel titre les juges auraient à donner leur avis sur les cadenas. L'article est confus et un peu absurde. On pourra préférer, dans ce même journal, le point de vue donné par Alexandre Gaddy, qui rappelle simplement le droit et remet à leur place ceux qui racontent à ce sujet un peu n'importe quoi. Donc je mettrai le lien vers l'article de Michel Guérin et l'article d'Alexandre Gaddy, et vous pourrez vous faire une idée de l'un et de l'autre. Juste une petite également un signalement d'un article paru dans Libération, mais il y en a eu dans d'autres journaux, sur la découverte, alors ça sort également du champ de la Tribune de l'Art, mais c'est quand même une chose très importante, c'est un sanctuaire antique avec beaucoup de sculptures gallo-romaines qui ont été découvertes près de Compiègne, sous un terrain de foot qui va être construit. Enfin, on va construire dessus. Voilà, donc c'est quand même une belle découverte archéologique. Je pense que c'est le genre de découverte archéologique que les archéologues sont heureux de faire, parce que souvent ils fouillent et ils ne trouvent pas forcément de choses spectaculaires. Là, on trouve des œuvres spectaculaires, ce qui est assez rare finalement. Je me retourne encore pour à nouveau vers RER. On a commencé par les expositions. Quel est votre programme à venir? Vous avez parlé effectivement du Städel,
oui,
et des dessins italiens.
Oui, oui. J'ai pensé, après l'arrêt de l'Institut néerlandais, avant c'était dur pour nous de programmer des expositions des dessins italiens ou même danois qui sont de chez nous. Il y avait une exposition dans Maison Danemark de nos dessins, mais pas
à
la Fondation Cousteau.
Oui.
Et j'aime bien éloigner. Alors,
ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas uniquement une maison néerlandaise. C'est l'histoire de l'art en général. C'est l'art occidental,
oui,
en fait.
Oui.
Et indien, d'ailleurs.
Et la niche, c'est plutôt l'art sur papier, mais pas seulement. Je disais plus. Alors, dans notre e-newsletter de janvier, j'ai expliqué qu'on veut se développer comme la maison pour l'art sur papier par excellence à Paris, pour présenter les dessins de toute l'école et de toute période. Et je disais, on va alors en dialogue avec l'art du dessin et avec des autres collections. Maintenant, dans le sous-sol de l'hôtel Lévy-Mirepoix, il y a un dialogue littéral entre nos dessins à la Fondation Custodia et les dessins de Musée Boijmans.
Mais c'est ce dont Bénédicte Messinger a parlé sur le site.
Oui, oui. Dans les années 80, j'étais conservateur à Boijmans et j'aimerais bien cette collection avec les dessins du grand collectionneur Franz Koenigs, et j'ai fait 40 moments de rencontres de dessins. C'est littéralement, mais en gros, j'aime bien montrer les dessins dans nos locaux. Tu as parlé juste de l'école des Beaux-Arts. Alors là, il y a le souci, il y a le cabinet Jean Bonnat pour des petites présentations, mais le directeur n'aime pas trop sacrifier les grands salons, les grandes salles pour des expositions de l'art ancien.
Nous
sommes convenus ensemble que la prochaine exposition, organisée par Emmanuel Brugerolles, sera en 2016. Il y a un titre de travail, alors pas définitif encore peut-être, mais c'est formidable. Elle a proposé de l'alcôve aux barricades entre Greuze et David, le fond de ce période-là entre le rococo et le néoclassicisme. Et on va présenter ça un peu à part de l'École des Beaux-Arts, chez nous, à la Fondation Custodia, sous des conditions favorables, avoir un éclairage très bien garanti, 50 lux partout, et j'aime bien continuer dans cet esprit-là. Alors, montrer qu'il y a un énorme goodwill de la part de la Fondation Custodia et travailler aussi avec les partenaires tout à côté de nous. Aussi avec la BNF, nous avons discuté, il y aura des travaux en 2017 et 2018, et là aussi, on est en train de faire un partenariat pour montrer les œuvres sur papier chez nous, quand ce n'est pas possible chez eux.
Alors, sinon, à propos de la BNF, qu'il y a une très très belle exposition dont j'ai parlé, sur les dessins français du XVIIe siècle de la BNF, enfin une partie des dessins français, qui n'a pas beaucoup de couverture presse, qui n'a pas beaucoup de communication.
Mais il faut le visiter. C'est une chance par excellence de voir des dessins formidables, pas souvent montrés avant, et c'est pour moi une des grandes découvertes de ce saison d'exposition, honnêtement. Oui.
Donc, alors, la Bibliothèque nationale, l'École des Beaux-Arts, et d'autres projets.
Il y a le Städel, il y a des partenariats autour de nous aussi. Moi, j'étais à Baltimore la semaine dernière et j'ai vu un album, ça va plaire Pierre Rosenberg énormément. Il y a un album avec les dessins de Léon Bonvin. C'est un artiste pas trop connu, mais je l'aime énormément. Et à ce moment-là, il y a un dessin de lui chez nous. Et je vais proposer de Walters Art Gallery de montrer cet ensemble de dessins connus un tout petit peu aux États-Unis à cause d'une exposition à Cleveland en 1980. Mais ça veut dire, ça fait 43 ans. Et j'aime bien
34
ans. Et j'aime bien montrer des dessins de Léon Bonvin chez nous en partenariat avec eux.
Oui, c'est ça, c'est le frère de François Bonvin.
Oui, le mi-frère. Oui,
c'est ça, le mi-frère.
Oui. Et il y a des initiatives comme ça. Dans le cadre de nos esquisses en plein air, Et j'aime bien faire, et je suis en contact avec le musée de Brou, de faire une exposition sur Georges Michel, sur les traces de Rembrandt et Ruysdael. C'est très approprié pour nous de le faire. Et non, il y a énormément
de projets. Alors justement, en parlant de ces esquisses, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, donc votre politique d'acquisition, moi je suis toujours... c'est extraordinaire parce que vous achetez beaucoup. Malheureusement, et ça je vous le dis... À cette antenne, je voudrais publier plus régulièrement vos acquisitions, mais j'ai un peu de mal à voir les images.
Non, ça, c'est à cause d'une manque de photographes. Mais maintenant, avec la machine là,
vous allez pouvoir faire les dernières acquisitions. Que je voudrais vraiment, parce que vous êtes un peu, je veux pas dire que vous êtes comme le maître Tropolitain Museum achète tellement de dessins que c'est impossible. C'est même pas que j'ai pas les images, c'est impossible de suivre leur actualité complète. Vous achetez beaucoup aussi, donc il faut pas qu'on prenne trop de retard. Parmi cette politique d'acquisition, vous avez, c'est Carlos von Hasselt qui a donné sa collection.
Il nous a légué environ 50.
Donc ancien directeur de la fondation.
Il était tellement content d'avoir travaillé là, et il nous a laissé une cinquantaine d'esquisses faites en plein air. C'était un peu à la mode.
Des
paysages. Mais il a collectionné avec ses moyens privés, ça veut dire avec son salaire. Et ça veut dire avec une limite. Mais il avait un ensemble d'esquisses formidables.
Mais il a identifié parce qu'il avait du goût, parce qu'il connaissait, donc il a dû trouver des choses qui valaient formidable. Plus que ce qu'il a acheté.
J'ai des contacts avec. Et au moment de mon arrivée, j'ai inspecté ce groupe d'esquisses qui était dans une armoire dans le sous-sol. Je me disais, oui, mais c'est beaucoup trop important. On ne peut pas recevoir ça comme legs et ne pas faire quelque chose avec. Et j'ai fait un démarrage dans ce domaine. Et maintenant, on a, je pense, 140 esquisses.
Tu veux dire que vous avez acquis 90 esquisses de paysages en quoi? En 3 ans, 4 ans?
C'était une vraie choix.
C'est...
Et on est en train aussi de composer ça dans une exposition avec quelques autres collectionneurs autour de nous, avec le Fitzwilliam Museum à Cambridge. Alors il y a énormément de liens entre nous et les... ça j'aime
et
bien.
Et vous avez des dons aussi, vous avez des dons.
Des dons, oui, on peut nous donner.
S'il y a des collectionneurs qui veulent donner des huiles
toujours la bienvenue.
De paysage à la Fondation Cousinière.
Les dernières deux acquisitions, je les ai mentionnées déjà. Juste avant le TFAF, nous avons acheté deux Théodore Gudin, faits en 1839. C'est l'année de la découverte de la photographie. Et il était sur un bateau, la Vélos. Il a fait une esquisse qui suit le rythme du bateau. C'est presque comme nous faisons des photos maintenant avec nos iPads. Il était en plein mer. Il a captivé ce moment formidable. Et ça, avec un pendant, c'est une vue de Corse qui va avec. Et ils ont été accrochés il y a quelques semaines maintenant dans le hall de la Fondation Custodia. Et ça fait un moment formidable. Et je cherche alors des choses qui parlent dans une façon pareille et pas encore une autre coin du monde.
Vous achetez, il y a cette collection-là, mais vous continuez à acheter des dessins anciens, des autographes, des dessins du 19e, livres anciens. Donc ça, on ne va pas le détailler de manière plus importante, mais j'espère qu'on pourra bientôt le lire dans des articles.
Oui, on va dans la Tribune de l'Art voir dans quelques temps l'ensemble des...
Un panorama de ça. Livre. Alors, quelques livres, je prends par exemple « Cathédrale de Besançon, trésor caché ». Donc, c'est un trésor qui n'est pas montré pour le moment à la cathédrale de Besançon, mais il y a un projet des travaux apparemment en cours pour monter un trésor. C'est une volonté de l'archevêque de Besançon. Et même fois, il y a beaucoup d'œuvres importantes, des sculptures, des peintures également, comme une résurrection de Lazare attribuée à Jean-Baptiste Déhay. Je n'ai pas vérifié si c'est une attribution qui semble plausible. Je ne sais pas si elle est dans le livre Arthena qui est publié récemment. Abraham et les trois anges attribués à Simon Vouet. Alors ça, en revanche, c'est impossible que ce soit de Simon Vouet. C'est peut-être d'après Simon Vouet. Mais il y a bien sûr des objets religieux, des sculptures... des calices, un album qui montre ces trésors cachés de la cathédrale de Besançon. Nous avons reçu également du musée de Montpiété de Berg, un musée valeureux puisqu'il organise des expositions. C'est une toute petite ville, Berg. Il y a bien sûr dans ce musée hein, la tour, donc c'est un musée qu'il faut visiter quand on va dans le Nord. Ça s'appelle Peintres en guerre, Henri Marais et Robert Le Tiron. Donc c'est une exposition de dessins essentiellement et de gravures relatifs à la guerre de 14-18, puisque bien sûr nous sommes en 2014, donc nous fêtons actuellement le centenaire de la guerre, nous célébrons le centenaire de la guerre de 14-18, raison aussi pour laquelle à Lens il y a cette exposition des désastres de la guerre, mais la guerre de 14-18 n'est que partiellement représentée, enfin n'est qu'un des, un, une des étapes de cette exposition à Lens qui va de 1800 à 2014, en fait, qui va à nos jours. Peintres en guerre, donc ça s'intéresse à deux artistes qui ont représenté la guerre de 14, deux artistes français qui ont représenté la guerre de 14. Un gros livre qui semble, je pense que je lui consacrerai un article spécial, Les artistes suisses à l'école des Beaux-Arts, 1793-1863, sous la direction de Pascal Griner et Paul-André Jacquard, et un répertoire des artistes par Laurent Langer. Donc c'est composé à la fois d'un essai important sur les artistes suisses à Paris, notamment, et avec un répertoire, avec tout ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont exposé au salon, les copies au Louvre qu'ils ont pu faire. Enfin, c'est un ouvrage évidemment de base pour qui veut travailler sur la peinture du 19e siècle, et en particulier sur la peinture suisse. Et nous avons reçu également le numéro de juin 2014 de Print Quarterly, dont nous mettrons en ligne le sommaire au début de la semaine prochaine. Pour conclure, Rare, est-ce que vous voulez parler en général, je me retourne vers mon invité pour voir quelques expositions ou livres qu'il a lus, des expositions qu'il a vues ou livres qu'il a lus. Vous parlez de Washington, donc vous avez vu cette exposition.
Oui, oui. À Washington, il y avait. C'est intéressant. Nous étions là avec les collègues de la Bibliothèque nationale et du Louvre et nous avons vu une exposition qui s'appelle Mary Cassatt et Degas, le rencontre. Livre formidable. Ce sera que à Washington. Et c'était très bien visitable. Alors, peu de public, et c'était formidable. Mais nous avons conclu que si quelque chose comme ça aura lieu à Paris, il y avait des queues, et là, pas. Mais ils ont des moyens de le faire, et la visite était vraiment formidable. Tous les tableaux, dessins, gravures, vraiment une rencontre entre Mary Cassatt et Degas, et c'était formidable. Toutes les variations de Mary Cassatt au Louvre et tout ça en gravure, et le livre est formidable, et c'était très bien fait. Il y avait une autre exposition, et nous ne l'avons pas visitée en groupe, mais j'étais là, et je trouve ça toujours fascinant. C'est sur les aquarelles de Andrew Wyatt. C'est un artiste qui est mort, je pense, en 2007 ou 2009, d'une grande renommée aux États-Unis. Et il est resté jusqu'à la fin de sa vie dans la tradition figurative, plutôt figurative. Il fait des grands aquarelles d'une habileté de technique, d'artisan énorme. Et de temps en temps, on voit des œuvres de lui que je trouve sur le niveau du sujet ou du motif un peu ennuyant. Mais maintenant, c'était à cause d'une donation à Washington, un grand tableau avec un rideau qui tourne dans le vent. Et toutes les études, et on a exploré le motif de inside, outside, looking in, looking out, avec le motif de fenêtre, hein, un motif classique dans l'histoire de l'art. Et ça m'a très ému. Alors, c'est bien de penser de temps en temps, Andrew Wyatt, quand même, la première image, l'affiche, je suis entré et j'ai acheté le catalogue, j'en ai parlé avec des collègues et c'était vraiment surprenant. Ça existe, hein, on pense moins. Mais il faut toujours se faire surprendre par l'art même. Et là, c'était vraiment formidable.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Rare Lawton, d'avoir répondu à notre invitation. Et encore bravo pour ce que fait la Fondation Custodia. C'est vraiment, sans la Fondation Custodia, Paris serait beaucoup plus pauvre du point de vue de l'histoire de l'art. Ça, c'est absolument certain. Merci, en tout cas.
OK, au revoir.
Et à la semaine prochaine, donc, nous recevrons le mercredi 4 juin à 18h. Notre invité sera Franck Ferrand, qui viendra nous parler de Versailles, de ses passions pour le patrimoine, et également d'un point important, comment arriver à faire partager par le grand public l'amour du patrimoine. Il le fait très bien pour l'histoire, et nous essayons de voir, pour les monuments historiques, comment faire pour que le grand public s'intéresse au patrimoine. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.